Archéologie, voir à travers les murs de Troie. La découverte du fossé de Troie, creusé autour du périmètre de la ville basse pour contrer la progression des chars ennemis, a été réalisée pour la première fois sans avoir recours à une seule pelle. Aujourd'hui, les archéologues ne se fient plus uniquement à leur expérience et à leur intuition pour décider où fouiller. Ils utilisent également des technologies qui leur permettent de sonder le sous-sol et de mesurer les variations de la composition du sol. À l'aide d'un appareil électronique mesurant la résistance électrique du sol, le physicien Hans-Günther Janson a cartographié de vastes zones de la ville basse romaine. Cet appareil, cependant, ne peut mesurer les variations de la composition du sol que jusqu'à une profondeur d'environ 1 mètre. C'est pourquoi, en 1992, les scientifiques ont commencé à utiliser un magnétomètre au césium, un instrument beaucoup plus sensible, pour sonder plus profondément sous la surface de Troie. Cet appareil, le seul au monde actuellement disponible à des fins archéologiques, détecte les perturbations du champ magnétique terrestre jusqu'à une profondeur de 3 mètres. Les données recueillies sont traitées et visualisées graphiquement par ordinateur. C'est grâce au magnétomètre au césium que les scientifiques ont découvert et suivi le fossé. Cependant, ces technologies modernes ne peuvent remplacer entièrement les pioches et les pelles. Les données, par exemple, ne révèlent pas l'âge des structures enfouies sous la surface. De plus, une tranchée datant de la Première Guerre mondiale, et il y en a beaucoup à Troie, ne se distingue pas sur les images de synthèse d'un fossé de l'âge du bronze. De même, les scientifiques ne peuvent pas différencier à l'écran une structure surélevée, comme un mur, d'une dépression, comme un fossé. Les mesures du magnétomètre et d'autres technologies de pointe ne peuvent pas remplacer les fouilles, mais elles indiquent où elles doivent être effectuées. Strate par strate, 3. Culture maritime de Troie, 29-1. 2300 Avenue J, C, 3I, 2, II. Les premiers colons arrivèrent à Troie au début du 3e millénaire Avenue J, C. La ville se développa et prospéra, devenant l'un des premiers centres de l'artisanat du bronze. Jusqu'à récemment, les archéologues supposaient que Troie de succéder à Troie. Cependant, en 1995, de nouvelles fouilles ont confirmé la thèse de Manfred Korfmann. Troie II n'était pas une nouvelle ville, mais une splendide citadelle, délimitée par la ligne pointillée sur le plan ci-dessous, avec des édifices gouvernementaux et religieux construits lors de la phase ultérieure de Troie et contemporains de l'ancienne agglomération. Les bijoux en or que Schliemann a identifiés à tort comme le trésor de Priam datent de cette période ou de la suivante. Entre 2480 et 2420, la citadelle fut détruite par un incendie. Lors de la période suivante, Troie, les mêmes habitants continuèrent à y vivre. Mais vers 2300, la plupart des habitants avaient déserté la ville, probablement après un tremblement de terre. Pendant les 100 années suivantes, Troie demeura presque inhabitée. Culture de Troie en Anatolie, 2000-1750 Avenue J, C, 3IV, Vepsao 01010220 LJPG. De nouveaux colons, originaires d'Anatolie, s'installèrent à Troie vers la fin du 3e millénaire Avenue J, C. Les débuts furent difficiles pour ces nouveaux arrivants. Troie fut détruite par le feu à cette reprise. De plus, l'analyse statistique des ossements d'animaux découverts dans les couches correspondantes montre que, durant cette période, les Troyens eurent des difficultés à se procurer suffisamment de viande. Vers 1900, la situation se stabilisa, mais aux alentours de 1750, ces populations quittèrent également la ville. Haute culture troyenne, 1700-1180 Avenue J, C. 3VI, via après 50 ans, de nouveaux occupants s'installèrent à nouveau à Troie, y construisant la plus puissante cité de l'âge du bronze, probablement la Troie d'Homère. Les fouilles actuelles indiquent que ces nouveaux Troyens appartenaient à une culture différente de celle de leurs prédécesseurs, probablement un peuple anatolien peut-être apparenté aux Hittites. Lors de la construction de leur citadelle et de leur ville, ils ne manifestèrent aucun respect pour les anciennes structures et pillèrent même des sépultures. La ville devint un important centre de commerce, d'élevage de chevaux, de production de poterie et de laine. Entre 1250 et 1230, les palais de la citadelle furent en grande partie détruits, peut-être par un tremblement de terre, une attaque, des troubles sociaux, des incendies, ou une combinaison de ces facteurs, et furent remplacés par des bâtiments beaucoup plus petits, Troie. Vers 1180, la ville fut attaquée de l'extérieur et entièrement incendiée. Culture troyenne et influence balkanique, 1180-1900-950 Avenue J, C. 3 Vlib. Après la guerre, un autre peuple s'installe dans la ville aux côtés de l'ancienne population. Moins d'un demi-siècle plus tard, de nouveaux immigrants arrivèrent, cette fois-ci des Balkans. Jusqu'à peu après l'an 1000, la population mixte de Troie continua de commercer avec les régions situées à l'ouest de la mer Égée, mais avec moins d'ardeur qu'à Troie. Au cours des 250 années suivantes, la ville se dépeuplait peu à peu. Période grecque, 700 à 85 avenue J, c. 3 VI. À partir de 740-30 environ, la population de la ville recommença à croître. Troie connut une plus grande prospérité au 4e siècle avenue J, c'est après la visite d'Alexandre le Grand. La ville, alors colonisée par les Grecs et nommée Ilion, connut un essor important. Les colons grecs construisirent un sanctuaire au sud-ouest de la citadelle, qui fut reconstruite à plusieurs reprises au cours des siècles, composée de deux temples côte à côte, chacun doté de son propre autel et d'un puits. Ils couronnèrent également la colline de la citadelle d'un temple d'Athéna. Néanmoins, la ville située sur la butte d'Isarli n'avait pas une grande importance, de nombreuses nouvelles colonies grecques de la Troade se disputaient les ressources naturelles de la région et la gloire d'être le site de la Troie d'Homère. Période romaine et byzantine, 85 avenue J, c, environ 500 après. J, c, 3 XPSAO 01010212 LJPG. Les Romains s'emparèrent de Troie en 85 avenue J, c. Depuis 188 avenue J, c, les Romains vénéraient Troie, ou Ilion, comme ils l'appelaient, comme la ville-mère de Rome, car ils considéraient le guerrier troyen aîné, héros de l'Énéide de Virgile, comme leur ancêtre. Sous Auguste, 27 avenue J, c. 14 après. J, c. Des sommes considérables furent investies dans le développement de la ville. Au 1er et 2e siècle après J, c. il devint de bon ton pour les Romains de la haute société de visiter Troie. Ce tourisme de masse précoce transforma la ville en un parc mythologique, une sorte de Disneyland historique. Des monuments aux héros d'Homère furent érigés partout, les Troyens allèrent jusqu'à falsifier leurs sépultures. Mais la ville ne jouait plus le rôle de centre commercial ou politique. Aussi, lorsque le flot de touristes cessa après la visite de Caracalla en 214, Troie perdit la majeure partie de sa richesse. Vers 300, Troie devint le siège d'un évêché. En 325, Constantin le Grand envisagea d'en faire sa capitale, avant de se raviser et de choisir Byzance. Vers 500, la plupart des édifices furent détruits par un tremblement de terre. Et au XIVe siècle, l'évêché fut dissous, et la ville sombra dans un oubli qui dura des siècles. La guerre de Troie au XXe siècle. Par Birgit Brando. PSAO 01010240 LJPG. La guerre de Troie la plus féroce s'est déroulée au début du XXe siècle. Plus de 200 000 personnes périrent lors de la bataille de Gallipoli pendant la Première Guerre mondiale. Durant ce conflit, les forces alliées tentèrent, en vain, de reprendre le contrôle des Dardanelles, le détroit autrefois dominé par les Troyens à l'armée turque. Mais la plus grande menace qui pesait peut-être sur Troie apparut dans la dernière décennie de ce siècle. Il s'agissait d'une conquête planifiée qui ne devait pas faire couler le sang. Après la fin de la guerre froide, la Troade n'était plus une zone militaire, et des spéculateurs fonciers projetèrent d'y construire de vastes complexes touristiques, recouvrant le paysage si magnifiquement décrit par Homère et transformant Troie en une île au milieu d'un océan de maisons de béton gris. Heureusement, les projets furent stoppés à l'automne 1996, lorsque le gouvernement turc déclara la région de Troie parc historique national. On espérait que d'ici la fin de 1998, Troie serait inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et qu'un grand musée, pour lequel le gouvernement turc avait accordé 3 millions de dollars en août 1997, serait achevé. Les objets découverts à Troie ont été dispersés dans plus de 50 musées et collections à travers le monde, nombre d'entre eux étant simplement entreposés. Les ramener, ou du moins une partie d'entre eux, là où ils reposaient autrefois sera l'un des défis les plus importants des années à venir. L'or de Troie, actuellement conservé au musée Pouchkine de Moscou, est revendiqué à la fois par l'Allemagne et la Russie. Mais pourquoi ce différend ne pourrait-il pas se conclure sans embarras pour aucune des deux parties, en restituant l'or non pas à une puissance étatique, mais plutôt au territoire dont il est issu? Troie a le potentiel de redevenir ce qu'elle fut jadis, un lieu d'échange culturel entre l'Orient et l'Occident, le Nord et le Sud. Et plus encore, ce lieu qui a été le théâtre de tant de guerres absurdes pourrait devenir un espace de rencontre pour un dialogue pacifique. Pour que cela devienne réalité, Troie a plus que jamais besoin de nombreux amis bienveillants.